Fadix, cher, bonjour, très heureux de vous retrouver. La dernière fois, c'était dans le cadre de la sortie de votre dernier film, Le cours de la vie, et c'était même au festival de Mons, je me souviens bien. Votre actualité, c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Léon Cher, Fact Off, on va en parler, et aussi votre présence à Cannes dans le cadre du jury du prix de la citoyenneté 2024. Présidé par Valérie Donzelli. En y repensant, je me dis que finalement, ce sont quand même deux univers cinématographiques qui se rapprochent quand même avec Valérie. Et en même temps, vous êtes deux grands amoureux du cinéma et de la vie.
Oui, alors, déjà, je suis très ému d'être à Cannes cette année en 2024, parce qu'il y a 20 ans, j'étais pour venir présenter un film.
On va parler de cinéaste à tout prix.
Voilà, et donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Et par exemple, dans Le cours de la vie, c'était Agnès Jaoui qui jouait le rôle d'un professeur de scénario, enfin d'une scénariste qui faisait un cours de scénario et qui essayait de donner la passerelle entre l'art du scénario et l'art de vivre, comment le cinéma et la vie s'alimentent réciproquement. Et dans Fact Off, qui est mon premier roman, parce que c'est une fiction, je me suis inspiré évidemment de l'univers que je connais puisque je donne des cours à l'université, et donc c'est un peu le prolongement du cours de la vie de ce point de vue, pour raconter comment les choses fonctionnent et dysfonctionnent. Parce que je trouve ça très important de montrer aussi ce qui ne va pas. Non pas pour avoir un esprit systématiquement critique ou négatif, mais parce que je pense que c'est très important de montrer comment il peut y avoir des dérives, comment il peut y avoir des malentendus, comment il peut y avoir des guerres d'ego, parce que ça a quelque chose de romanesque. Et l'université est un milieu qui est très romanesque, en fait, parce qu'il y a comme des personnages qui sont les enseignants. Il y a une galerie de personnages dans le livre, mais aussi les étudiants. Et là, c'est quelque chose qui dépasse le livre, mais qui était présent dans Le cours de la vie aussi, qui m'obsède aujourd'hui. C'est comment faire une passerelle, un passage de flambeau entre générations. Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu de notre société aujourd'hui, en 2024. Comment poursuivre comment est-ce que les aînés peuvent garder contact avec les plus jeunes générations et réciproquement, sans être chacun dans son côté. La nouvelle génération parle souvent, pour ceux de ma génération, de l'ancien monde. Et pour moi, il n'y a pas d'ancien monde et de nouveau monde. C'est un monde qu'on vit, dans lequel on vit en commun. Et la jeunesse, et donc là, les étudiants dans Fac Off, peuvent apporter énormément par leur regard, par leur combat aux anciennes générations. Mais je pense que ça va également dans l'autre sens. Et que si on refuse tout contexte qui vient du passé, si on refuse qu'il y a une culture, qu'il y a une histoire qu'il faut transmettre, eh bien, à mon avis, c'est la société va droit dans le mur. Et donc, il y a un enjeu qui dépasse le livre, qui dépasse le film, qui est comment il peut y avoir un échange entre nouvelles et anciennes générations.
Alors, donc, comme vous dites, donc, c'est l'enseignement supérieur en France. C'est assez surprenant que ce soit quand même un Belge, si je peux me permettre quand même, qui fasse un petit peu le constat, indépendamment du fait que vous soyez quand même professeur à Paris, en Panthéon-Sorbonne, mais que ce soit quand même un Belge qui mette un petit peu le pavé dans la mer, non ?
Je ne crois pas que ce soit un hasard, parce que je ne suis pas le seul, mais c'est difficile de parler de soi-même en tant que Belge, mais je me sens profondément Belge, et je me sens toujours avec un regard décalé. Et je pense qu'il y en a plein d'autres. Parmi les acteurs, un acteur que j'adore comme Benoît Poelvoorde, il est quand même, on peut dire qu'il y a quelque chose de décalé. Parmi des cinéastes, il y en a plein, des cinéastes comme Yann Ducroix ou plein d'autres. Donc il y a quand même une vanne belge dans la bande dessinée. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça en Belgique, mais il y a quand même une tradition.
Noël Godin, pour ne pas le citer.
Noël Godin aussi, et donc, mais qui a un côté irrévérencieux. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus sympathique en Belgique qu'en France, et qu'il y a moins de hiérarchie. On peut, par exemple, aborder un ministre quand on le croise dans la rue ou dans une réception en Belgique sans que ça pose aucun problème et avoir un vrai dialogue avec lui, c'est moins facile en France. Il y a une sorte de barrière, de hiérarchie. Et donc, le fait que je sois belge, peut-être, apporte un regard que n'aurait pas forcément un Français sur le monde universitaire en France.
Maintenant que vous faites partie du corps professionnel, est-ce que vous voyez monter sur les barricades ?
Monter sur le barricade, non, parce que justement, c'est pas ma place, puisque je suis enseignant, donc on peut pas être à la fois dans la majorité et dans l'opposition, si je comprends cette métaphore, mais je pense que c'est très important dans une démocratie qu'il y ait une opposition, et qu'il n'y a pas de démocratie sans débat, et sans parfois contestation, et même parfois sans révolte, et que l'important, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de garder le dialogue. Mmh. Et donc moi, j'essaie de comprendre, d'avoir de l'empathie, ce qui ne veut pas dire accepter tout. Par exemple, dans l'occupation des universités, qui se passe actuellement, c'est un sujet d'actualité, il y a plusieurs sous-sujets. La première chose qu'on peut dire, c'est que ça ne remonte pas à hier, les occupations d'universités, déjà en 68. Et puis moi, j'ai connu, et j'en parle dans le livre...
Parler des grèves. Hein,
des grèves, absolument. Ouais, ouais. Et donc, comment à ce moment les étudiants veulent occuper l'université. Mmh. Moi, j'ai connu, par exemple, il y a quelques années, des étudiants qui occupaient la faculté de Paris-1-Sorbonne et qui disaient, on ne la quittera pas tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas démissionné. Il n'a pas démissionné, ils ont fini quand même par libérer, entre guillemets, l'université. Mais tout est une question de proportion. Mmh. Je pense que c'est bien d'avoir un lieu de débat, voire de contestation, et que dans ce qui est contesté, après, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, quand on a des propos antisémites ou islamophobes ou autres homophobes, par exemple, évidemment, c'est pas possible d'entendre cela et de laisser la liberté, elle a des limites aussi, notamment les limites de la loi. Et donc, ça pose la question du cadre. Et l'université, ce lieu très étrange, il n'y en a pas beaucoup, où il y a à la fois les révoltes étudiantines qui peuvent exister et en même temps un cadre qui doit être maintenu et comment on trouve l'équilibre entre les deux.
C'est vrai que ça chauffe dans l'université, mais ça se voit aussi bien aux États-Unis, en France et même à Bruxelles, on peut le dire. Et je vous avoue que ça m'a fait un peu penser aux révoltes, comme vous dites, de 68 et 67 aussi, et notamment en Strawberry Statement, le film de Stuart Hackman. C'est vrai qu'on se dit, mais l'histoire se répète, non ?
Oui. Alors dans le livre, j'essaye d'avoir un côté un peu humoristique, d'avoir un regard un peu...
D'abord, c'est possible.
Voilà, d'abord, d'essayer de se moquer de le narrateur, qui n'est pas moi, mais le narrateur se moque de lui-même, et donc il y a une forme d'autodérision, et donc il y a des sujets aussi qui peuvent prêter à sourire. Par exemple, quand je parle de la révolte étudiante qui occupe l'université dans le livre, j'exagère un peu le trait, je dis un peu volontairement caricatural, où je raconte, par exemple, qu'il y a des chèvres qui sont dans l'université, ce qui n'est pas le cas, hein, ça peut être le cas dans la vérité, pour pouvoir faire une autogestion, puisque, et ça c'était le cas, donc c'est là où il y a la réalité et la fiction se conjuguent, les étudiants dont j'avais connu la révolte étudiantine à l'époque disaient qu'ils voulaient s'auto-gérer et qu'ils n'avaient plus besoin d'apprendre quoi que ce soit des enseignants, que c'était eux-mêmes qui pouvaient s'auto-enseigner ce qu'ils devaient apprendre. Et donc je me permets d'avoir un petit sourire, un petit regard ironique par rapport à cela.
Pour revenir à Cannes, comme vous disiez, donc votre film a été présenté le 15 mai 2004, cinéaste à tout prix. Quand vous regardez dans le rétro, comment vous percevez l'évolution du cinéma, notamment, surtout avec tout ce qui bouge en ce moment? Est-ce que vous avez un œil critique? On a l'impression, quand on entend certaines prises de position, qu'il faut tout casser et tout reconstruire.
Mais là aussi, il y a plusieurs sujets. Là, par exemple, depuis que je suis jeune spectateur, c'est-à-dire enfant ou adolescent, donc ça remonte à quelques dizaines d'années, j'entends un discours qui est la mort prochaine du cinéma. Mmh. La mort prochaine du cinéma face à la télévision, la mort prochaine du cinéma face aux plateformes. Et le cinéma est toujours là, à l'heure où on se parle. En tout cas, le Festival de Cannes est toujours bien vivant. Et je pense que la salle de cinéma, c'est un lieu unique. Parce que je pense qu'on ne voit pas le film de la même manière. Ce n'est pas qu'une question de taille d'écran. C'est une question de vivre ensemble, là encore. Et je trouve ça très important, par exemple, de partager un film avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que le partager chez soi avec des amis devant sa télévision. Parce que, du coup, il y a une forme de mini-société qui sont les spectateurs qui sont présents à une séance et on partage un moment. Et un film nous dit quelque chose sur nous-mêmes, nous dit quelque chose sur le monde, peut nous faire rire, peut nous déplaire aussi, parce qu'évidemment, il y a des films qu'on apprécie plus ou moins. Et je pense que c'est très important que ce lieu qu'est la salle de cinéma permette d'avoir un autre rapport au film. Alors, je ne suis pas du tout contre le fait de voir des films ailleurs. Évidemment, moi-même en premier... Je vois plein de films ailleurs que dans la salle de cinéma, mais je pense que la salle de cinéma va rester toujours bien vivante. Et donc la question qui se pose plutôt, c'est quel film on pourra voir en salle? Donc est-ce que c'est uniquement les blockbusters ou les grosses productions, ou est-ce qu'il y a une place pour d'autres cinémas, des films plus indépendants, des films plus radicaux? Et puis il y a une autre question encore, qui est la question de... Quand on dit c'est fini, c'est la question de Me Too, c'est la question de... des abus qui existent. Et je pense que c'est très sain qu'il y ait un refus de tout ce qui est de l'ordre de l'abus, qu'il soit sexuel ou autre, parce que les abus sexuels sont peut-être les abus les plus graves, mais il y a d'autres sortes d'abus de pouvoir qui existent aussi dans le cinéma, des personnes qui abusent de leur pouvoir sur un plateau, un acteur qui a un ego surdimensionné, qui ne va pas forcément, ou une actrice, ça peut exister aussi, qui ne va pas forcément avoir de rapport problématique sur le plan sexuel, mais qui peut maltraiter quelqu'un, mal lui parler, être méprisant. Et donc, c'est important
de cadrer un petit peu,
c'est bien qu'on ne le permette pas. Après, il ne faut pas que ça tombe dans la chasse aux sorcières et qu'on ait l'impression qu'on veuille absolument faire tomber des têtes. Donc, il faut garder raison. Il y a quelque chose de très positif, je pense, et il y a quelque chose de dangereux. C'est une dérive. J'ai eu, je n'en parle pas dans le livre, mais ça aurait pu être dans le livre, Fac Off, j'ai eu cette année même une question, un débat avec mes étudiants qui était autour de Luc Besson. Puisque je dis à mes étudiants que ce que j'adore comme enseignant le cinéma, c'est de faire venir plein de cinéastes à leur rencontre et que ce n'est pas à moi de leur dire quel est leur cinéaste de chevet, que c'est à eux de choisir quel cinéma ils aiment et que parfois je peux aussi bien inviter des cinéastes qui ne sont pas forcément mes cinéastes préférés mais que je trouve important de par la proposition de cinéma qu'ils font, par exemple Luc Besson, en termes de production, de ce qu'il a essayé de construire avec Europa Corp, une alternative au cinéma américain. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas...
Même s'il est repris après par les Américains.
Bien sûr, mais dans sa démarche, je trouve que c'est intéressant, comme universitaire en tout cas, d'essayer de comprendre le phénomène Luc Besson. Et je ne pensais pas du tout, quand je disais cela, à tort ou à raison, peut-être à tort, aux accusations de viol qui ont été portées à son égard. Et donc à la fin du cours, et pourquoi je n'y pensais pas ? Parce que Luc Besson a bénéficié d'un non-lieu, et jusqu'à la cour de cassation, donc il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites à son encontre, et donc il y a des personnalités, selon moi, qui sont vraiment problématiques, je parle plus de Luc Besson de manière plus large, est-ce qu'il faut pour autant, c'est un vrai débat, ne plus parler de leurs films et de leur parcours. Et donc, des étudiants viennent me voir, en délégation à la fin du cours, me remettre une lettre, dans laquelle ils disent, en substance, je la dis de mémoire, « Monsieur le professeur, nous acceptons qu'il y a une dizaine d'années, puisque c'était il y a 10 ans, vous avez invité Luc Besson à venir en cours, mais nous ne vous permettons pas, parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas savoir qu'il était accusé de viol, dont acte, c'est bien le cas, mais nous n'admettons pas, par contre, que vous le citiez aujourd'hui en cours, que vous mentionniez son nom, car vous n'êtes pas sans savoir de quoi il est accusé et nous nous plaçons du côté des victimes.
Voilà, on va loin. Alors.
Et donc j'ai, au cours suivant qui était en amphithéâtre, lu cette lettre qui était donc non signée, puisque les étudiants qui me l'avaient apportée ne m'avaient pas mis leur nom, et donc j'ai voulu que tous les étudiants du cours s'entendent, et j'ai donné mon point de vue, qui est le suivant, c'est que du point de vue de la victime, donc je parle au-delà de Luc Besson, imaginons quelqu'un qui est victime d'un viol ou d'un abus sexuel, qui porte plainte et que, pour la raison, c'est parole contre parole, qu'il n'y a pas de preuve, eh bien que son abuseur soit acquitté ou qu'il y ait un non-lieu. C'est insupportable. Si on se place, si on a l'empathie pour la victime, elle ne peut pas admettre cela. Mais si on se place du côté de la procédure juridique, qui est comment condamner quelqu'un sans preuve ? Si il suffit de dire à quelqu'un, d'accuser quelqu'un pour qu'il soit condamné juridiquement, la vie en société n'est plus possible. Et donc, en ce qui me concerne, et je dis aux étudiants, je respecte ces deux logiques, mais elles sont incompatibles. En tout cas, dans certains cas, elles ne peuvent pas se concilier. Et pourtant, je pense que les deux logiques existent, et je les respecte toutes les deux. C'est-à-dire, je respecte, bien évidemment, quelqu'un qui serait victime d'un abus et qui ne pourrait pas le prouver pour qui ce serait insupportable. Et je respecte aussi la vie en société, qui est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve, car si c'était le cas, eh bien, ce serait la porte ouverte au chaos. Et donc, comment concilier deux logiques qui sont profondément inconciliables ? Par bonheur, les étudiants m'ont entendu, et donc c'était la fin du débat, et on a pu continuer à parler sereinement.
Votre roman, comme un peu vos films, finalement, est-ce qu'on peut dire que ce sont des œuvres politiques, militantes aussi ?
Oui, mais sans le vouloir. Alors, c'est la fameuse phrase d'Aristote qui est d'ailleurs citée par Frédéric Taddeï dans Éclair à Hollywood, qui disait « tout est politique ». Donc déjà, Aristote disait cela, mais donc tout dépend de ce qu'on entend et ce qu'on met derrière le mot « politique ». Si le mot « politique » au sens étymologique est la vie de la cité, évidemment, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait participe. Et donc, oui, il y a, en tout cas, je ne sais pas si tout est politique, mais je suis toujours mené quand même par un sentiment de... comme un besoin d'insoumission. Voilà, j'ai pas des choses qui m'insupportent ou qui me révoltent, et j'ai besoin d'en parler, que ce soit sous forme d'un livre ou d'un film.
Finalement, être membre du jury du prix de la citoyenneté, ça vous correspond bien. Et surtout, je veux dire, en ce moment, c'est une position très légitime. De revenir à Cannes dans ce cadre-là.
En tout cas, je suis très heureux. C'est la première fois que je vais passer le Festival de Cannes pendant toute la durée, puisque j'ai déjà venu à Cannes il y a 20 ans pour Cinéaste à tout prix ou à d'autres reprises, mais jamais pour tout le festival. Donc là, être présent pour tout le festival, voir tous les films de la sélection officielle, puisqu'il faut choisir un film parmi tous les films en compétition en sélection officielle pour donner le prix de la citoyenneté. Et on a eu une petite réunion avec les autres membres du jury et les responsables de ce prix ce matin. Donc l'idée, c'est de trouver un film qui soit, évidemment, c'est un critère essentiel, intéressant du point de vue du cinéma. Donc c'est pas uniquement le sujet du film ou la thématique, il faut qu'il y ait une mise en scène, il faut qu'il y ait une émotion, et donc ça rentre peut-être dans la subjectivité, mais la subjectivité qu'a tout critique de cinéma ou tout spectateur. Qu'est-ce qui fait qu'un film est plus intéressant qu'un autre sur le plan artistique? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent plus ou moins d'émotion avec tel ou tel film? Donc ça, c'est quand même des éléments très importants additionnés à trois axes qui sont l'humanisme, qui sont l'universalisme et la laïcité. Donc il faut que le prix de la citoyenneté rejoigne ces trois éléments, et je pense que ces trois éléments très importants aussi aujourd'hui, parce que par exemple dans tous les débats, c'est peut-être la passerelle avec les étudiants aussi, comment garder dans les combats la volonté de l'universalisme, par exemple, ne pas tomber dans le travers du repli identitaire. Ce repli identitaire qui peut se décliner sur plein de façons différentes, d'un point de vue religieux, mais aussi parfois d'un point de vue d'une appartenance ou d'une revendication identitaire sur son mode de vie, sur sa sexualité. Et donc, je trouve ça merveilleux si dans une société, différentes identités puissent cohabiter. D'ailleurs, je pense que chacun de nous, individuellement, nous sommes composés de plusieurs identités. Ce serait dramatique si on était réduit à une seule identité, quelle qu'elle soit. On est des êtres multiples. Et donc, je trouve que c'est très important aussi que dans la société, il y ait cette tolérance et même cette richesse des différentes cultures, des différentes identités qui puissent coexister ensemble, mais à la seule et unique condition que ce ne soit pas dans l'exclusion de l'autre. Et donc là, c'est un vrai débat sur notamment les révoltes étudiantines aujourd'hui ou des nouvelles générations, qui sont souvent des révoltes très légitimes. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de fustiger celles ou ceux qui ne seraient pas comme les personnes qui portent un combat. Et donc, la question de l'universalisme, par exemple, c'est quelque chose de très important, je pense, notamment dans l'époque au niveau mondial dans lequel on vit, avec tous les conflits qui existent, et de garder cet humanisme et cet universalisme en tête. Cet humanisme, ça veut dire d'abord admettre que l'autre n'est pas comme soi-même, et essayer de comprendre l'autre sans l'exclure de prime abord. C'est pas facile, mais c'est un combat, je pense, que chacun doit mener à titre individuel. Et la laïcité, ça me paraît vraiment quelque chose de très important, parce que c'est un débat franco-français, puisqu'il y a cette notion de laïcité qui existe en France plus que dans d'autres pays, mais qui existe aussi, je pense, en Belgique sous un autre angle, et qui peut exister dans d'autres pays aussi. C'est, est-ce qu'on est dans une version de société comme il existe en France, avec cette idée de laïcité qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d'avoir sa religion ou d'être athée ou d'être agnostique, et avec cette idée que chacun a toute légitimité à avoir ses croyances, mais qu'on ne doit pas les imposer dans l'espace public, ou est-ce qu'on veut un communautarisme à l'anglo-saxonne, et avec toutes les dérives, à mon avis, que ce communautarisme peut entraîner.
Une dernière réflexion qui concerne Hitler à Hollywood. Dans les différents portraits que vous aviez là-bas, il y a celui de Gilles Jacob, l'ancien délégué général. Finalement, c'est la boucle est bouclée, non?
J'espère que non, parce que je ne suis pas encore mort. On peut mourir d'une crise cardiaque dans 5 minutes, hein, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Et donc j'espère pouvoir encore faire un nouveau film grâce à Au cours de la vie, qui a quand même été le film réalisé par un Belge qui a fait le plus grand nombre de spectateurs en salle en 2023 en France. Et donc j'espère que je ne serai pas condamné à ne plus jamais faire de film avec la Belgique. J'ai toujours cet espoir, parce que et avec ou sans la Belgique, de faire un nouveau film. Et donc
la boucle est peut-être bouclée.
Voilà. En tout cas, c'est le besoin de la fiction, en fait. C'est le mentir vrai de la fiction aussi. Je pense que la fiction, que ce soit dans un roman ou dans un film, amène je parle comme spectateur et comme lecteur, je parle pas de mes propres réalisations. Ça nous ouvre les yeux. Et je trouve que c'est formidable qu'un roman ou un film peut nous apporter quelque chose et qu'après l'avoir vu ou après l'avoir lu, eh bien on a un petit quelque chose en plus qu'avant.
Donc on rappelle Fakov, sorti aux éditions Léo Cher et directement en librairie. Merci.
Merci beaucoup.